D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. C'était le temps des lettres. Vous vous rappelez les lettres? Une feuille de papier, du papier. On prenait un stylo, on posait le stylo sur la feuille de papier et on écrivait à quelqu'un. Cela prenait un certain temps, pas tellement à l'écrire, mais à parvenir. Il y fallait au moins un jour. Un jour? Comment ça? Un jour? Un jour pour recevoir un mot? Eh bien, ce temps mis dans le transport était intériorisé par celui qui écrivait la lettre. Il savait que son écrit n'arriverait qu'au minimum 24 heures plus tard, et ça faisait tomber beaucoup d'urgences, de fausses urgences. Les lettres n'ayant pas la vitesse des mails, on y disait les choses autrement, plus posément, moins voracement. Enfin, il ne faut pas s'exagérer non plus la sagesse du passé. Des millions de lettres ont été écrites qui n'étaient ni recueillies, ni intéressantes, et des mails s'écrivent aujourd'hui qui sont aussi sérieux que des lettres. Les gens bien sont toujours bien, ce n'est pas la technique qui les changera. Les talents s'adaptent toujours. Chateaubriand disait « ça n'est pas la locomotive qui fait la civilisation, ça n'est pas non plus le courrier électronique qui fait l'absence de civilisation ». Ce qui a changé pourtant, c'est le rapport des écrivains aux lettres. Je crois que je fais partie de la dernière génération à avoir écrit des lettres à des écrivains et à en avoir reçu encore que cela commençait à passer. Il est maintenant impossible de faire comprendre à un jeune homme qui vous aime, vous admire et s'adresse à vous qu'une lettre vous ferait plus plaisir qu'un mail. D'abord, à cause du soin qu'on met aux lettres, pour ne pas faire de pâté, bien sûr, mais aussi parce qu'on se gêne. Au lieu d'être les deux pieds sur son bureau avec son ordinateur sur les genoux, un petit cérémonial japonais se met en place, par exemple quand on plie bien sa lettre et qu'on colle le timbre comme il faut. C'est un discret hommage qu'on rend à l'autre. Et puis, pour un écrivain, la lettre était apparentée au manuscrit. Il y entrait l'idée de l'après. Le soin d'écrire une lettre l'apparentait, de près ou de loin, à l'œuvre. Certains ont fait de leur correspondance une œuvre concertée, un livre s'écrivant. Cicéron, Pétrarque, Voltaire. Qu'en est-il de François Mauriac, dont la collection Bouquins chez Robert Laffont publie un volume de correspondance intime qui comprend une centaine de lettres inédites. Je reçois pour en parler Philippe Solers, qui a bien connu François Mauriac. On trouve d'ailleurs dans ce volume plusieurs lettres qu'il lui a écrites. Philippe Solers, avez-vous fait la connaissance de Mauriac par une lettre, suivant la tradition dont je parlais, que lui-même illustre, puisqu'on voit dans ce volume ses débuts écrivant à Barrès?
Oui, je lui ai écrit et il m'a répondu très vite et en m'invitant à Malaga où je suis allé et où nous avons marché avec à l'horizon le paysage des vignes. Et à partir de là, bien, je l'ai vu alors assez fréquemment à Paris et quand il n'était pas là, il m'a envoyé, je ne sais pas, une dizaine de lettres, dont la dernière est très très émouvante.
Vous l'avez écrit, pardon, avant d'avoir écrit votre premier livre?
Oui, je n'avais rien écrit du tout.
Rien écrit du tout.
Et donc j'étais le voir, j'avais fait un petit reportage, je ne sais plus dans quoi, un journal d'étudiants.
Vous étiez encore à Bordeaux.
19 ans, oui, j'étais encore. Et donc, la dernière lettre, je voudrais vous la lire, si ça ne vous ennuie pas. Elle date de 1968, période très troublée dans ce pays, et il meurt 2 ans après. Voilà. Oui, cher Philippe, ce sont les Blancs qu'il faut savoir déchiffrer. Nous étions, nous autres, installés dans un certain langage de convention. Pas vous. Je ne puis vous dire l'impression de joie que j'ai eue de votre lettre. À 83 ans, j'ai des réactions qui feraient rire. J'ai toujours su, depuis le premier jour, qui vous étiez. Si je ne vous comprenais pas toujours, je voudrais me taire maintenant, mais la toupie, tant qu'elle tourne, ronflera. Mais aussi le chrétien suppliera, restera à l'écoute, même s'il doit rester seul, attendre la réponse et n'en recevoir aucune autre que de ne pas désespérer. Ça suffit à vous. Voyez le style. Un grand écrivain est tout entier dans une lettre qui est sincère, touchante. On sent la vibration de la phrase en même temps que la sincérité. probablement joué, mais admirablement joué, de celui qui envoie ce genre de mots.
Et est-ce que ça ne veut pas dire, ce genre de mots que vous venez de citer, que un grand écrivain ou même un écrivain, quel qu'il soit,
un grand écrivain, c'est une correspondance indubitablement.
Et alors, est-ce que dans ce cas-là, un grand écrivain, au fond, ça n'est pas une correspondance, mais des lettres? Je veux dire par là qu'il écrit et qu'il se fiche de la réponse.
Oui, bien entendu. Il écrit pour que ça soit, un jour ou l'autre, publié, sans aucun doute. Je revois Mauriac à Paris, où vous parliez de papier, d'écriture, etc., très importante. Le son à recevoir de quelqu'un et de voir comment fonctionne ce corps qui écrit. J'allais le voir à Avenue Théophile Gautier. Il était allongé pratiquement sur son lit et il écrivait son bloc-notes, son extraordinaire bloc-notes, au crayon. Donc j'ai vu Mauriac crayon à papier. Et donc, il posait son crayon, puis on bavardait un petit peu, etc. On n'a pas idée de ce qu'étaient encore les écrivains célèbres à l'époque. Quand j'allais dîner avec Mauriac, chez Calvé, qui était un restaurant assez agréable, boulevard Saint-Germain, il y avait les gens. Ah, mais c'est Mauriac.
On reconnaissait Mauriac dans la rue.
Oh, comment ? L'autre personnage concurrent qui marchait vers la coupole, le boulevard de Montparnasse, c'était Sartre. Sartre passant, comme ça, presque aveugle, à la fin, dans la rue, tout le monde se retournait. C'est fini.
Oh, on doit bien se retourner quand vous passez.
Non, pas du tout.
Dites-moi.
Vu à la télé.
Oui. Pour en revenir aux lettres du début, la première lettre qui est dans ce volume date de 1959. Il vous appelle mon cher Philippe, d'où je déduis, s'il vous appelle mon cher Philippe, que ce n'est pas la première lettre qui vous est écrite. Ce n'est pas les...
Non, il y en a d'autres, mais qui sont recueillies ailleurs.
Pourquoi ne sont-elles pas dans ce volume ?
Parce qu'elles étaient déjà publiées. Voilà, celle-là ne l'était pas.
Alors, dites-moi une chose, c'est que je comprends qu'un jeune homme, un journal d'étudiants, etc., bordelais, ivoirien bordelais, tout ce qu'on sait, mais... Ce qui m'intrigue plus, c'est de savoir ce que c'était pour vous, quand vous avez publié vos premiers livres, ce que c'était littérairement pour vous, Mauriac. Je vois bien la position illustre qu'il avait, mais est-ce que vous ne le preniez pas pour un écrivain classique, tant soit peu ennuyeux ? Vous étiez plutôt butor et plus expérimental.
Au début, non. Vous savez, c'est l'histoire de la main qui a serré la main, qui a serré la main. Bon, Mauriac avait serré la main de Marcel Proust. Pour moi, c'était un événement considérable. Et lorsque Mauriac parlait de Proust avec une admiration définitive, devenant très humble tout à coup par rapport au soleil que Proust représentait. Voilà, c'était d'abord ça. Ensuite, deux choses. Les romans sont bien meilleurs que ce que l'on en a dit, notamment sur l'étouffoir maternel en province. Et je vous assure que Le Nœud de Vipère, titre pris dans Baudelaire, et Génitrix et La Pharisienne, c'était les romans qui m'intéressaient beaucoup, compte tenu du milieu social, provincial, catholique, étouffant. Maternellement étouffant. Attends, le problème des mères françaises de cette époque devrait être creusé.
Là, je comprends très bien ce que vous me dites, mais c'est du sujet. Or, vous êtes, comme tout écrivain, mais plus particulièrement à cette époque, un écrivain de forme. Et la forme de Mauriac était une forme très classique.
Je ne voulais pas écrire ça, mais comme ça, mais une fois le temps passé, en relisant, par exemple, Thérèse d'Escayrou, qu'il aurait dû appeler Poison, tout simplement, ce récit de cet empoisonneur, je vous assure que vous allez de la première ligne à la dernière, parce que ça reste écrit d'une certaine façon, rapide et vive. C'est tout à fait, c'est bien fait. Voilà, c'est un très bon écrivain. Il faisait tout ça assez vite, en réalité, avec un succès considérable à l'époque. Hein, voilà.
Vous parliez de Proust. Dans ce volume, il y a quelques très belles lettres de lui à Marcel Proust, et dont une où il dit à Proust, et ça doit être une chose difficile à dire malgré tout, « Je n'ai pas avec vous de sentiment d'aînesse ». C'était une belle phrase. Et justement, est-ce que vous aviez vis-à-vis de lui ce sentiment d'aînesse ? Est-ce que pour vous, c'était un vieil illustre écrivain qui deviait vous... En dehors de cette question de transmission.
Pas du tout. Il avait son âge, mais alors, ça m'a toujours frappé chez les écrivains assez âgés que j'ai connus. C'était tous des jeunes gens. Et ça, c'est très étonnant. Vous savez, Arago était un jeune homme, Mauriac était un jeune homme, Breton était un jeune homme, il était pourtant momifié dans sa position presque papale, le pape du surréalisme. C'était tous des jeunes gens. Ça m'a beaucoup frappé de voir qu'un écrivain... Bon, le corps se délite sans doute, Mais d'abord, on écoute, on ne regarde pas le corps, on écoute ce qu'ils disent, et la voix reste la voix, et le style même en parlant prédomine, et fait que vous êtes au contact de quelqu'un d'absolument vivant, comme si cette jeunesse avait été effervescente, passionnée, etc. Voilà.
Puis il y avait aussi quelque chose de très amusé, non, chez Mauriac. Il aimait s'amuser. Il
Mon
aimait...
Dieu, le rire avec Mauriac, c'était le fou rire. Il était très, très lucide, très cruel, pas méchant, pire que ça. Très, très ironique. Il mettait sa main dans sa bouche.
Comme Proust.
Avec sa voix, oui, oui c'est ça. Et, oui, bien sûr.
Vous croyez qu'il imitait Proust quand il riait? Parce que Proust mettait la main devant la bouche.
Non,
comme ça.
Je crois que c'était.
C'était naturel.
C'était, vous voyez, quand il sortait une vacherie, c'est. Faisant semblant d'avoir honte de ce qu'il avait dit, vous voyez, c'est ça. Mais tous ces gens, c'est plein d'esprit, vous comprenez. Un écrivain, même quand il parle, Céline, par exemple, c'est absolument extraordinaire. Il y a le style et dans la voix.
Alors, ces lettres que publie Bouquin sont des lettres qui s'appellent Correspondance intime, et j'y trouve au fond assez peu d'intimité. Il y a tout de même une lettre à Jacques-Émile Blanche où il parle avec beaucoup d'émotion des grouillements des cornues sur la plage, des adolescents qui jouent à la balle presque uniquement vêtus de halles. Et Philippe Solers, dans Le Nouvel Observateur, vous venez de publier une lettre à Mauriac où vous dites homophile, sans doute, homosexuel, non. Je me demande d'abord comment vous pouvez le savoir, surtout après la biographie de Jean-Luc Barré qui est à peu près. Établit les choses. Et on ne voit pas, d'ailleurs, en quoi ça serait gênant. Et puis, pourquoi vous dites ça? Vous dites la sexualité, le dégoûté. Or, il me semble qu'au contraire, il est tout en frémissement. Je parle de sa littérature, là, hein, je ne parle pas de ses lettres. Et le frémissement est là, et la sexualité n'avait pas l'air de le dégoûter du tout.
Si, je crois. Je crois que là, on se trompe beaucoup quand on fait... Ça traîne comme ça. Vous savez, maintenant, les éléments de langage font... qu'on appuie sur un bouton, vous avez tout de suite la réponse sexuelle, la réponse politique, Heidegger est nazi, Mauriac était homosexuel, il n'a pas osé aller jusqu'au bout des révélations qu'il aurait pu faire, etc. etc. Je pense que ça l'a beaucoup travaillé, entre guillemets, voilà, c'est pour ça que je dis homophile, sûrement, homosexuel, c'est trop dire dans la mesure où l'accomplissement physique, physiologique, n'était pas, à mon avis, de son ressort, il n'avait pas les moyens corporels de se livrer à ce genre de choses, il y avait une pudeur, parce que je le devine.
Mais pourtant, il a couché avec Cocteau.
Attendez. Oui, mais écoutez, Mauriac était fasciné par Gide, avec qui il était très, très ami. Donc, c'est la question qui se posait. Gide était, pour lui, quelqu'un d'extraordinaire. On ne pouvait pas savoir, les après-midi, il nous faisait la lecture la soirée, etc. Et alors, c'est ce qui était gênant, c'est qu'après le déjeuner, il allait courir dans la campagne. On était obligé de prévenir les paysans, de cacher leurs petits garçons, tatatilala. Bon, il revenait comme un satyre. Voilà. Mais alors, la phrase qui peint exactement ce que je veux dire, c'est, vous comprenez, il ne se rendait pas compte que c'était mal. Or, le problème,
mais c'est tellement bon quand c'est mal.
Oui, non.
Pour lui.
Pas pour lui. Non, pas pour... Oui. Mais pas vraiment. Il y avait trop de culpabilité, trop de refoulement, trop d'étouffement jeune, étouffement maternel, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut tirer. Il était très admiratif de Gide, mais il trouvait que tout ça, c'était pas vraiment d'abord son affaire, encore une fois, physique. Vous savez, les gens et leur corps, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous prenez Claudel, par exemple. Claudel est un génie enfermé dans un corps. Il faut observer la façon dont les corps se débrouillent. Il y en a qui se débrouillent comme ci, d'autres comme ça, etc.
Il était un peu enfumé, non? Je veux dire, il ressemblait à une fumée, un peu physiquement, Mauriac.
Physiquement, il était très mince, très... oui.
Un peu sinueux, comme
tout
ça
dans, tout, pas vraiment, non. Assez sec, au contraire, non. Très comme ça. Assez, un peu Claire Gemann, pour un catholique, c'est bizarre. Mais enfin, oui, non.
Bon, alors, on parlait de ses rapports avec Cocteau, et je voudrais là qu'on l'entende, puisqu'ils ont une grande
querelle. De jeunesse, alors, avec qui ont traversé toute la vie, avec une sorte d'ambivalence considérable.
Voilà, et qui se sont très mal passés en 1951, au moment d'une pièce de Mauriac qui s'appelait Bacchus, que Mauriac a attaqué. Cocteau a répondu, et je voudrais donc qu'on écoute Mauriac dans la Tribune de Paris, le 19 mai 1954.
La Tribune de Paris diffuse ce soir, à titre exceptionnel, de larges extraits d'un débat organisé par notre confrère L'Express. À l'occasion du premier anniversaire de L'Express, d'éminents orateurs ont répondu aux questions des convives, pour la plupart élèves des grandes écoles. nous ne pourrons, faute de temps, faire entendre l'ensemble de ses interventions. Nous croyons néanmoins présenter ce soir l'essentiel de ce dialogue entre quelques-uns des jeunes gens qui doivent former les cadres de la France de demain et quelques-uns de leurs illustres aînés. On entendra donc, tour à tour, des déclarations de messieurs François Mauriac, Robert Schuman, Louis Armand et Pierre Madès-France. Monsieur Christian Redé a d'abord demandé à monsieur François Mauriac si c'était les circonstances qu'il avait entraînées dans la politique ou s'il avait choisi lui-même de sortir du domaine strict de la littérature. Monsieur François Mauriac a répondu.
Les écrivains entrent en général assez tard dans la politique parce que les écrivains, au départ, ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Et en général, ça dure très longtemps. Je vais vous confier un secret. Monterland ne s'intéresse qu'à Monterland. Cocteau ne s'intéresse qu'à Cocteau. Cocteau ne s'intéresse pas à Monterland. Monterland ne s'intéresse pas à Cocteau. Mais, mesdames et messieurs, je n'étais pas différent des autres.
Et si, d'une certaine façon, parce que le fait d'avoir vu beaucoup de monde dans sa vie, précisément dans la politique, assez tardivement, pas tardivement, Mauriac, c'est la guerre d'Espagne tout de suite. Il est sensible à ce qui est en train d'arriver dans l'histoire. Alors, vous me direz que les uns ou les autres ont eu des engagements. Ce qui est frappant chez lui, c'est la lucidité. C'est le meilleur politique qui ait existé dans ce pays. C'est-à-dire la guerre d'Espagne, Vichy, pas question, il est occupé par les nazis à Malaga, Staline, il est évidemment pas question non plus, le colonialisme, pas question, et le Maroc, là, il a été vraiment très, très, très courageux et seul, et puis l'Algérie, la torture en Algérie, etc., il a fini comme ça, c'est-à-dire il a tout bon, d'une certaine façon. Donc il s'intéressait beaucoup à lui-même, mais sur la scène aussi politique, où il a été très influent, notamment dans l'Express, où il a fait le premier article sur moi, où il a écrit mon nom.
Là où il n'a pas tout à fait tort, c'est qu'il le dit dans ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'il arrive malgré tout assez tard en politique. Je veux dire, c'est pas un politicien arrive en politique à l'âge de 20 ans, lui c'était plus tard. Et justement, la question que je voulais vous poser, Philippe Soler, c'est que la ligne de fracture chez lui, comme chez un autre homme de droite dont on ne l'aurait peut-être pas attendu, qui était Bernanos, c'est la guerre d'Espagne.
Mais écoutez, Mauriac n'arrête pas de dire qu'il a sauvé l'honneur catholique pour l'Espagne, comme Bernanos, qu'il a sauvé l'honneur catholique pour le Maroc, pour l'Algérie, etc. Donc c'est ça, ça le préoccupait beaucoup, la polémique avec Cocteau. Elle a des raisons personnelles, de jeunesse, et tout en contra, mais elle porte tout de suite sur la question de l'Église catholique, etc. Bon, c'est ça qui le préoccupe, enfin, parce qu'il se considère comme un catholique fervent, ce dont il n'y a pas lieu de douter, le moins du monde. À mon avis.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que la vraie ligne de répartition entre humain et inhumain, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la guerre d'Espagne ?
Oui, il a été mis en face d'une répression catholique absolument profonde. Alors après, par exemple, Martin Dugard lui reproche d'être communiste. Enfin, elle est bien bonne. Et il y a cette phrase, il a cette phrase sublime, nous n'avons pas à choisir entre les assassins. L'amitié la plus grande qu'il a sur le plan politique, je ne parle pas des lettres adressées à Claudel, à Valérie, à Proust, c'est vraiment de très haut niveau. C'est son amitié avec Paulhan. Paulhan pendant la résistance en France. Et là, ils sont extraordinairement complices. Et il y a une formule admirable de Mauriac à la libération parce qu'il devient Saint François des Assises. Il est contre la peine de mort, avec Camus d'ailleurs. Ce sont deux justes sur cette position. Et il écrit à Paulhan, en effet, contre l'épuration sauvage qui a lieu à ce moment-là. C'est très important de le souligner. Nous ne sommes ni flics ni mouchards. Et ça, je trouve que c'est beau.
Pour en revenir à la période de la guerre, Mauriac a écrit sous pseudonyme un livre célèbre intitulé « Le cahier noir » aux éditions de Nuit clandestine en 1943. Et j'ai cité récemment dans un secret professionnel un article du Figaro en 1941 qui ne devait pas être facile à écrire, où il mettait courageusement en garde contre ceux que, dans une lettre à Drieux de 41 qu'on trouve dans ce volume, il appelle ceux qui cherchent à mettre l'occupant au service de leur vengeance.
Mais bien sûr.
L'occupation, ça a été la divine surprise des écrivains ratés, non ?
Mais ça a été une division profonde qui a continué par la suite. La formule de Mauriac sur la croix gammée est inoubliable. Une araignée noire gorgée de sang. Ça, vous savez, ce sont des formules qu'on n'oublie pas. Et là, Drieux lui vante le fascisme, très peu pour moi, lui dit-il, ne collabore pas à la NRF reprise par Drieux.
On voit très bien dans le volume, d'ailleurs, que Drieux lui fait des avances, qu'il lui dit très poliment « je vais voir », et que très tout de suite, il dit non à Drieux. Et maintenant, on juge ça assez facilement, mais dire non dans une France occupée au type qui dirigeait la NRF, c'était pas non plus si facile de dire non.
Et dont la propriété était à Malaga, où je suis allé, était occupée par les nazis. Il y a une anecdote admirable dans une des lettres où il dit voilà, je suis occupé par les nazis, il y a un commandant SS qui vient s'asseoir devant moi dans mon salon, il ne parle pas un mot de français, tandis que son assistant prêche à la cuisine la pire doctrine nazie. Et là, la femme de ménage a un mot merveilleux de l'esprit du sud-ouest, il dit ce nazi, il n'arrête pas de prêcher, il ne lui manque que la soutane. Voilà.
Vous voyez, oui, elle a dû dire ça avec l'accent,
il ne lui manque que la soutane. Mais enfin, il aurait pu aussi, tomber, dormir dans l'escalier ou des choses comme ça, parce qu'il n'adhérait pas.
Il aurait pu aussi.
Il n'a adhéré à rien, vous comprenez ?
Oh non, non, vous ne pouvez pas dire ça, il a adhéré à l'Église fortement.
Ah, ça, sauf à sa foi. En politique, il a soutenu qui ? Tout à l'heure, on entendait le nom de Mendès France, qui était couvert de boue, comme vous savez, il l'a défendu. Ensuite, ça a été De Gaulle, évidemment. Mendès France et De Gaulle, dans l'histoire de ce pays, qui quand même était anesthésié au maximum ces jours-ci, c'est pas mal, Mendès France et De Gaulle.
C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me paraît assez frappant, dites-moi ça, Philippe Solers, chez Mauriac, c'est qu'il va jusqu'au maximum de là où il peut aller, dans l'opposition à son camp, parce que Mauriac est un homme de droite, c'est assez net, et en même temps, il va contre presque toutes les positions.
Oui, il est de gauche pour la droite, il est de droite pour la gauche. Enfin, vous savez, ça c'est classique, on ne sait jamais très bien où le mettre, parce que chaque fois il dérape, il remet son titre en jeu, en quelque sorte. Par exemple, le prix Nobel. Bon, voilà quelqu'un qui a eu tous les honneurs. Voilà l'Académie française très tôt, le Nobel, Nobel de littérature, etc. À peine il a le Nobel, qu'il le joue dans l'anticolonialisme, enfin, c'est-à-dire ce qui se passait à ce moment-là au Maroc. Donc, voilà quelqu'un qui, quand même,
c'est-à-dire cet homme
naviguait qui a... avec sa foi. Bon.
Oui, et bien naviguer est un mot, est probablement le mot juste, parce qu'il a l'air justement de caboter comme ça en permanence, et finalement il tient une ligne. Il aurait pu être, vous parliez de Gide, il emploie souvent d'ailleurs dans cette correspondance, ça m'a frappé, un mot très gidien qui est le mot inquiétude, qui était un mot qui n'existe plus maintenant, mais Gide finalement pendant la guerre est allé en Afrique du Nord, il a rien
fait. Gide est en Algérie, voilà. D'ailleurs Mauriac lui écrit, vous devriez rentrer à Paris, il y a des gens intéressants, Sartre, Camus, des gens comme ça, voilà. Non, Mauriac s'engage, voilà, c'est un écrivain engagé, comme Sartre a mis longtemps à le faire.
Oh, pas si longtemps, ça c'est un truc qu'on a envie de dire maintenant, parce qu'il a eu une pièce représentée sous l'occupation, et comme on a envie d'emmerder Sartre, on dit Sartre a mis du temps, il a mis moins de temps que d'autres.
Oui, mais enfin, l'engagement a été fâcheux par la suite, parce que d'écrire en 1954 « La liberté de critique est totale en URSS », il faut vraiment avoir la berlue.
Philippe Solers, vous n'avez pas écrit des choses sur Mao, vous
mais
avez vu la berlue ?
Que je ne regrette pas du tout d'ailleurs, parce que je persiste dans le crime.
Ah, bon. Je voudrais que vous me disiez une chose sur les... manière de faire de Mauriac. Il y a dans ce volume une lettre au fils Bainville, après une perfidie, dirons-nous, sinon plus une vacherie, que Mauriac avait écrite sur Bainville et sur Monterland dans un journal, et puis il leur adresse après une lettre très caressante pour s'excuser. Je dois dire que ça m'est arrivé récemment, je me fais injurier dans le monde, c'est-à-dire devant 300 000 personnes, et celui qui m'injurie m'envoie un SMS, me dit « mon chéri, ça n'est rien », croyant que ça excuse. Et Mauriac était un peu comme ça, non ? Cette espèce de côté chat un peu hypocrite.
Je ne dirais pas hypocrite, parce que quand il s'agit de parler, il parle, hein, tout à fait. Il vous dit les choses à brûle-pourpoint. Bon. Mais cela dit, après, il n'y a pas de jugement définitif. Donc, il faut toujours dialectiser un petit peu les situations. Non, c'est quelqu'un qui n'était pas pétrifié. Les gens, comme vous savez, se pétrifient dans des amours, dans des haines, et puis ils ne bougent plus. Mais Mauriac, non. Il faut voir comment il pratique le pardon des injures. Pas seulement les injures qu'il a faites lui-même, mais le pardon des injures. Et ensuite, comment, contre l'avis général, il s'élève contre la peine de mort. des gens qui l'auraient fusillé. Bon, là, il y a des lettres, par exemple, de la maire de Brasillac, qui a essayé d'intervenir à chaque reprise pour sauver des gens.
Or, Brasillac a écrit des saloperies sur lui.
Oui, oui. Écoutez, il n'y a rien de plus extraordinaire que le fait qu'à un moment donné, il dit que personne n'est aussi insulté que lui par « Je suis partout », qui était vraiment un torchon fasciste. Hein, voilà. Et il dit « Bientôt, je vais devenir ivrogne, car comme ils m'interdisent les bistrots de la rive gauche, j'y vais tous les jours pour prendre l'apéritif. » Il aurait pu se faire casser la gueule. Dans le métro, il y a des grandes affiches « François Mauriac, agent de la désagrégation nationale ».
C'était l'époque où un crétin nommé Clément Vautel disait que nous avions perdu la guerre à cause de Proust et de Gide, vous vous rappelez
par exemple,
ça hein.
Par exemple, rebattez par exemple le couvre d'injures sexuelles. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça, parce que rebattez a son idée sur l'homosexualité, la pédérastie de Mauriac, le foutre le ranci, l'eucharistie, etc. C'est dégueulasse. Or, est-ce qu'on est sorti vraiment de ces espèces de passions primitives? Je n'en suis pas sûr. Je n'en crois rien. Les passions sont toujours primitives et elles sont toujours là.
Pour en revenir à ce que vous disiez au début, Philippe Soler, vous parliez de la jeunesse perpétuelle, si je puis dire, de Mauriac. Et finalement, elle transparaît dans ce que vous venez de dire à l'instant, cette espèce de détachement vis-à-vis de la posture qu'il aurait pu prendre. Enfin, Grand Croix de la Légion d'honneur, Nobel, le général de Gaulle, etc. Il aurait pu devenir un vieux con pompeux.
Voilà. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Il a sauté de son siège. Il n'a pas voulu se laisser momifier. Voilà. Il a galopé, comme ça, vers des aventures historiques.
Philippe Soler, si la littérature est un relais et que le jeune Mauriac, lancé par le vieux Barrès, est devenu le vieux Mauriac lançant le jeune Solers, qui est le jeune homme qui a écrit sur Solers et sur qui Solers a écrit et qui vous en sera reconnaissant dans 60 ans?
Il y en a plein. Et si je cite un nom, ça sera au détriment des autres.
Mauriac, je me permettrai, au contraire de Philippe Solers, de trouver un romancier pas si considérable. Et Sartre n'avait pas tort quand il disait « Dieu n'est pas romancier, monsieur Mauriac non plus ». Mauriac est un épistolier intéressant, quoique peut-être pas du niveau de Proust ou de Flaubert. Le grand Mauriac ne serait-il pas dans le bloc-notes, ses articles de presse? Là où sa finesse cesse d'être de la simple finesse, du trop de finesse, et où il devient audacieux en prenant des positions contre son camp. Là où il montre le plus d'humour, cet humour qu'il avait si mordant. Là où il écrit sans doute le moins, pour reprendre le titre de son premier livre, « Les mains jointes ». Dans le bloc-notes, si les mains sont jointes, elles tiennent souvent un poignard. Mauriac sait très bien assassiner les inhumains, car tout son combat, son vrai combat, et sa qualité a été là. À une époque qui a peut-être été la plus inhumaine de l'histoire de l'Europe, il a su résister aux brutes, les esquiver et les vaincre. Ce vieil enfant de cœur se révélait un virevoltant et virtuose cardinal de la Renaissance. Je ne cite peut-être pas la bonne période. Ce qui apparaît dans le bloc-notes, mais aussi dans ses lettres, c'est que le fond de culture de Mauriac, c'était une période déjà très disparue de son temps, le XVIIe siècle. Chaque écrivain a une période du passé à laquelle il se rattache avec passion. Eh bien Mauriac, c'est le XVIIe, c'est Pascal, c'est Racine, et voilà cet homme qui, dans un article de l'Express, ose citer du La Fontaine, et je peux vous assurer que les citations d'auteurs anciens inquiètent beaucoup les directeurs de journaux. C'est cet homme qui sait si bien parler de Phèdre, car la sinuosité des personnages de Racine est ce qui lui ressemble le mieux. C'est cet homme dont le sang vient d'avant les Lumières et qui pourtant, dans chaque circonstance de sa vie d'écrivain, est resté éclairé. C'était Secret Professionnel, le 51e. La semaine prochaine, je parlerai du Secret Professionnel de Max Jacob. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet. Attachée d'émission, Catherine Denet. Prise de son, Pierrick Charles. Recherchina, Sandra Escamez. Dans un instant, Villemonde.